Bonjour à tous pour dimanche. Nous sommes aujourd'hui au dimanche des Rameaux. C'est le début de la semaine plus sacrée pour tous les chrétiens du monde. Et nous devons aujourd'hui entrer dans ce temps sacré avec beaucoup de piété, car c'est notre salut qui s'est joué dans cette semaine sainte. Le Seigneur est monté sur la croix par amour pour nous, versant son corps, sacrifiant son corps et versant tout son sang pour nous, selon les 40 prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient ce salut, qui annonçaient le Messie. C'est la grande confusion de ce jugement inique qui a partagé le monde en deux, ceux qui suivront le Christ et qui suivront ses commandements et seront sauvés, et ceux qui dans le monde ne reconnaîtront pas le Christ et ne seront pas sauvés. C'est un grand mystère. Mystère du salut vraiment qui nous est proposé aujourd'hui. Le terrible jugement a été la charnière du monde aujourd'hui entre nous célébrons cette charnière entre le passé, le temps du Christ et l'avenir jusqu'au retour du Christ. Le Seigneur nous a dit qu'il reviendrait. Cette charnière s'est jouée sur le Golgotha, comme on le dit, le lieu du crâne, parce que d'après la tradition, ce lieu du crâne était supposé être le lieu où avait été enterré le crâne d'Adam, était dessous, c'est pour ça qu'on l'appelait du crâne, et d'après une tradition fort ancienne, évidemment, le sang de Jésus aurait coulé le long de la croix pour arroser et revivifier les restes d'Adam qui étaient ramenés vers le salut par le sang du Christ, selon la promesse qui avait été faite déjà depuis le temps où Adam avait été jugé, le salut avait été promis, et c'est Jésus qui est ce sauveur, qui s'est fait homme pour nous, et avec beaucoup d'amour, a donné tout son amour pendant sa vie terrestre, le temps qu'il est venu ici, se montrer comme étant le visage et la parole de Dieu. Il a donné tout son amour, et il a montré qui il était par les nombreux miracles qu'il a fait évidemment pendant tous les temps qu'il était avec ses disciples et qu'il a enseigné le Saint-Évangile, c'est-à-dire les vrais commandements d'amour que Dieu commande. Il est venu s'offrir en victime juste pour le Seigneur afin que la justice de Dieu se mue en miséricorde. Donc il est la miséricorde même qui nous est offerte. C'est le moment très important pour nous et nous sommes invités à nous unir évidemment au Christ pendant toute cette semaine, ses disciples aussi, sans oublier la Sainte Vierge Marie qui est, lorsque le prêtre au moment de l'offertoire verse quelques gouttes d'eau dans le vin, c'est évidemment une prière qui dit que c'est l'Église qui vient se joindre au sang du Christ. Évidemment, tous ceux qui ensuite se sont mêlés à l'épreuve du Christ ont accepté, prennent leur croix et offrent même d'une manière leur sang au sang du Christ. Mais c'est surtout, d'après une vieille tradition, ce sont les larmes de Marie qui sont versées dans le calice, parce que Marie vit quand même ce drame effrayant de ce jugement et évidemment cette passion terrible. Et la Sainte Vierge est partie prenante de tout cela, et donc on doit aussi penser à la Sainte Vierge et ses disciples qui sont restés fidèles, à Jean qui est resté. On doit penser aussi à la miséricorde de Dieu qui vient sur ceux qui s'éloignent du Christ au moment difficile, comme Saint-Pierre qui renie le Christ trois fois, et toujours le miracle de Jésus qui a anticipé la chose et qui lui annonce que le coq aura chanté trois fois quand il aura renié. Les disciples s'échappent tous, et en particulier les apôtres, à part Saint-Jean, qui est le pur et celui qui va jusqu'au bout avec le Christ, qui ne lâche pas le Christ parce que son amour est un amour entier. Les autres sont un peu partagés, ils ne sont pas encore rendus parfaits par la venue de l'Esprit-Saint, lorsque le Christ enverra l'Esprit-Saint, où il leur donne une sorte de force qui leur manque. Mais Jésus les a laissés partir parce que il fallait que dans leur ministère, quand ils vont annoncer l'Évangile dans le monde entier et partir dans le monde, ils soient d'une patience et d'une miséricorde que le Christ leur a accordée. Donc ils sont arrivés tout penauds, mais le Christ, quand il est revenu vers eux, ça a été le Christ de la miséricorde. Mais le prix à payer, c'était la croix. Et aujourd'hui, le monde est encore partagé. Nous avons toujours les mêmes pharisiens qui sont au pouvoir, les mêmes pouvoirs de ce monde qui bâtissent des empires, comme on voit aujourd'hui, les mêmes difficultés pour les chrétiens, ceux qui restent fidèles, donc qui acceptent le salut, ceux qui font le travail, c'est-à-dire ceux qui restent au pied de la croix comme Saint Jean, ceux qui s'éloignent et qui ont encore besoin de la miséricorde de Dieu donnée par les sacrements de l'Église et par le repentir, surtout parce que là où il n'y a pas de repentir, il ne peut pas y avoir de pardon. Et nous voyons la figure de Judas encore dans cet évangile, celui qui ne se repent pas. Il culpabilise et il reste dans sa culpabilité. Il ne va pas se repentir. Jésus lui aurait donné la miséricorde. Et on verra dans quelques jours, quand on médite sur la Passion, que à Saint, surtout chez Maria Walter Tuck, qu'il faut lire, si on peut lire la Passion chez Maria Walter Tuck, c'est redoutablement effrayant, mais en même temps, ça nous apporte plein de clés. On voit que la Sainte Vierge, quand Judas, avant de se pendre, va vers le cénacle où la Sainte Vierge se tenait, évidemment la douloureuse Vierge Marie, elle voit Judas et elle lui dit: Judas, viens, viens. La Sainte Vierge, dans sa perfection de l'amour, est prête à pardonner. Et Judas ne peut pas concevoir la miséricorde parce qu'il est resté sur autre chose. Il est resté sur le pouvoir. Et quand le pouvoir fait défaut, ceux qui n'ont plus ce pouvoir se désespèrent et ils refusent la miséricorde parce qu'eux-mêmes ne possèdent pas la miséricorde. Et la confusion qui règne dans Judas, c'est qu'il se rend compte qu'il a blessé l'amour, mais il n'a pas assez d'amour pour revenir vers Jésus et demander la miséricorde. Et donc, voyez, il se pend et toutes les prophéties annoncent tout ce que nous vivons, les 40 prophéties qui préparent la venue du Christ. Et que même quand Jésus dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu, Elohim, Elohim, pour lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le monde croit que c'est parce que Dieu aurait abandonné Jésus et que donc il n'est pas le Messie. En réalité, il récite le psaume 22, qui est un psaume magnifique qu'il nous faut lire cette semaine pendant la semaine sainte, où est décrit le serviteur souffrant et celui qui devient le porteur, évidemment, de la divinité. C'est Jésus qui est le Sauveur. Et donc, c'est en fait, il prend sur lui ce psaume 22, qui est le psaume prophétique qui annonce que le Messie devra souffrir et en même temps Dieu lui donnera la victoire, puisque c'est une fin heureuse qui est à la fin de ce psaume. Mais le serviteur souffrant est quand même annoncé. On annonce aussi qu'il devra souffrir beaucoup. Il avait été dit aussi que à un moment lorsque Adam et Ève sont condamnés, ça démarre déjà bien loin. L'histoire du salut, il est dit qu'une femme, la semence de la femme, en écrasera la tête du serpent de son talon. Et en fait, c'est étonnant qu'on, dans un monde qui était très masculin, et où on voit des prophètes partout qui sont toujours des hommes, et les choses se passent de manière virile, la semence de la femme, c'est-à-dire Jésus a le sang de sa mère. C'est la Sainte Vierge, t'écrasera le talon, c'est-à-dire c'est la semence de. C'est Jésus qui est issu de Marie, et le Père n'est pas cité, évidemment, puisque c'est Dieu, mais c'est la semence de Marie qui écrasera le talon. Donc, c'est dès le début qu'est annoncé le salut si on fouille les Écritures, et donc. Cette semaine, veillons, prions beaucoup. Pour le salut du monde à chaque génération, pour les temps difficiles qui se mettent devant nous en ce moment, les bruits de guerre qu'on entend sont le temps de l'épreuve pour le monde chrétien, pour le monde oriental. C'est déjà très avancé pour eux et on n'a pas tenu très compte de ces millions de chrétiens qui ont été persécutés en Orient. Il en reste très peu, mais ils sont fervents, ils restent fidèles. Et nous devons prier pour que, au temps de l'épreuve qui vient sur le monde aujourd'hui, puisqu'on entend des bruits de guerre assez effrayants, nous soyons nous-mêmes fidèles et que nous soyons prêts aussi à suivre Jésus, à ne pas faire comme les 11 apôtres qui se sont sauvés, mais à rester près du Christ et de sa croix et accepter le message du Christ. parce que tous les miracles que Jésus a fait, sa vie miraculeuse, sa passion et sa résurrection, qui sont le fondement de notre religion magnifique, a été suivi dans l'histoire par les nombreux miracles qu'ont fait les saints, et ils sont l'authentification, la beauté des textes sacrés qui nous annoncent le Messie, Jésus, notre Seigneur, lumière du monde, parole et visage de Dieu, sont pour nous un témoignage qui nous est livré par l'histoire, par la Sainte Église depuis le début, et nous verrons, certains suivront, resteront au pied de la croix, d'autres se sauveront, mais s'ils se sauvent, ils obtiendront toujours la miséricorde quand ils reviennent, ce qui est le cas de la plupart des pécheurs, et nous devons prier pour cela, prier pour ceux qui sont restés au pied de la croix, ils n'ont pas besoin de prière parce que ce sont les saints, ceux qui se sont sauvés, qui se sauveront aujourd'hui, qui ont trahi l'Église dans la grande apostasie que nous vivons, mais qui se disent encore chrétiens souvent, mais qui ne pratiquent pas le christianisme. J'ai été touché ce matin à la petite Vierge de la Fontaine où je suis allé ce matin, comme tous les matins. J'ai trouvé un homme en train de faire boire à la source et faire une petite prière. Et je lui ai dit, ah, c'est bien, vous êtes chrétien. Et il m'a dit, non, je suis musulman. Mais nous honorons la Sainte Vierge. Alors je fais une petite prière à la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte? Ils sont plus près que certains qui ne vont même pas dans l'église, vont au cimetière, faire le tour du cimetière et ne vont pas dans l'église pour honorer le Seigneur, prier les saints qui sont dedans, qui attendent toutes ces statues des saints qui sont là, et sont là, la Sainte Vierge qu'on a restaurée et tout ça. Les gens vont au cimetière prier pour leur mort, mais ils prient pas dans l'église qui est le lieu sacré de ce village. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ça m'a touché de voir un musulman. Je lui dis oui, il m'a dit nous prions, nous vénérons la Sainte Vierge. Donc je fais une petite prière quand même à la Sainte Vierge. Je lui dis bon, vous êtes musulman, mais rapprochez-vous du Seigneur et le Seigneur vous enverra des grâces. Mais je suis pas pratiquant, c'est pas grave. Dieu existe et priez par la Sainte Vierge, je obtiendrai des grâces. Vous voyez, c'est touchant quand même. Voilà, c'est le petit cadeau du ciel ce matin. Oui, prions pour tous ceux qui sont éloignés de la vraie foi chrétienne, qui ne sont tous ces gens qui se disent chrétiens, qui sont baptisés souvent et qu'on voit qu'ils ne sont pas vraiment dans ce que Dieu demande, c'est-à-dire une vie d'union à Dieu, une vie de prière et une vie de grande charité. Prions pour cela, tous les comme les apôtres qui sont sauvés mais qui ont obtenu la miséricorde. Et nous devons prier aussi pour ceux qui ne se repentent jamais. Parce que par une intervention du ciel, par les mérites de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, des purs qui étaient auprès de la croix, et des prières de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens qui restent fidèles et qui prient pour les autres, pour demander que le Seigneur sauve les âmes de ceux qui sont sauvables, c'est-à-dire que le Seigneur intervienne dans les vies pour amener la lumière, sa lumière, la lumière de Dieu, et que l'Esprit Saint puisse entrer dans ces vies pour y faire le travail que le Seigneur nous a dit qu'il ferait à travers l'Esprit qu'il nous envoie. C'est ça qui est très important. J'ai reçu des jeunes gens ces jours-ci. Hier soir, j'étais à Lourdes, il y avait 90 personnes qui prient beaucoup et qui, voilà, il y a quand même des priants. Et les jeunes gens, un jeune homme converti, qui se convertit et qui vient vers le Seigneur. Vous voyez, c'est grâce à une jeune fille qu'il a amenée là, à la foi, et à une dame charmante qui était une dame qui a une esthéticienne, et vous voyez, entre une esthéticienne souvent et sa cliente, il y a une sorte d'amitié. Elle dit, ah, j'ai mon fils, je crois qu'il aimerait s'intéresser à la foi, et elle l'a amené au Seigneur, et elle a payé son voyage pour qu'il vienne faire un pèlerinage à Lourdes, qu'il puisse venir deux jours chez moi pour se rapprocher du Seigneur et comprendre un peu mieux le christianisme. Mais ce sont ces jeunes âmes d'élite qui sont nos successeurs de demain. Moi, je suis un prêtre âgé, je partirai rapidement un jour, et ce sont ces jeunes qu'il faut former, et donc ils reviennent de loin. Et comment reviennent-ils? Par la prière des chrétiens, par la gentillesse, et c'est plutôt par le témoignage de la charité que ces jeunes peuvent venir à la foi. C'est difficile à convaincre, vous voyez, quand on n'a pas pu convaincre les pharisiens, pourquoi? Parce que leur cœur était trop fermé, était trop enfermé dans le matériel et dans la recherche des pouvoirs. Quand des gens chrétiens se montrent gentils, généreux et patients, On voit les sourires qu'ils ont et ça donne envie de devenir chrétien. C'est comme ça qu'on convertit par l'exemple et la gentillesse. Voilà, c'est comme ça. Prions donc pour cette semaine sainte, que nous soyons fidèles au Seigneur et que jusqu'à l'heure de notre mort, prions surtout pour être trouvés en état de grâce les uns et les autres, après avoir reçu la miséricorde de Dieu, la Sainte Vierge et des saints, les intercessions des saints. C'est très important, notre Église est une Église du miracle, mais elle est une Église aussi de la communion des saints. Jésus a communiqué sa puissance aux âmes d'élite qui se nourrissent de lui et qui sont chargées de porter la lumière du monde. Je disais la semaine dernière, quand nous communions, le Seigneur quitte le tabernacle où il réside dans les églises, il vient en nous, c'est à nous d'être les tabernacles du Christ, avec nos mains, nos pieds, nos paroles, nos yeux et nos oreilles, nous devons répandre le Christ, car le Christ, avant tout, a dit que nous devons vivre dans la communion de l'Esprit. Et c'est par cet Esprit que nous pouvons porter le Christ partout dans le monde. C'est comme ça que ça s'est répandu à travers les premiers disciples et tous les saints et tous les missionnaires et toutes ces sœurs qui sont restées portant le Christ dans les tabernacles intérieurs et répandant la puissance de l'Esprit Saint vers tout cela, tourner vers Dieu et comprendre la paternité amoureuse de Dieu. C'est pour ça que chacun de nous est un miracle, que nous ayons été appelés dans ce monde. Nous sommes surgis par la volonté de Dieu dans ce monde, avec un laps de temps où nous est donné d'entendre la parole de Dieu, de l'intégrer et de la répandre. Tout cela parce que le Christ est la lumière du monde et il est en chacun de nous lorsque nous laissons agir la grâce qu'il veut nous donner pour agir dans le monde et transformer le monde jusqu'à ce qu'il revienne vers la patrie céleste. Voilà. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour tous nos parents défunts, pour votre maman et pour nos parents. Et nos parents pour tous ceux qui sont les vivants et les morts, pour notre parentèle et pour que le Seigneur amène à la